Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
8h08, bon dimanche avec AMC, bienvenue à vous. Si vous venez d'arriver chez nous, vous êtes au cœur de ce rendez-vous auto avec Jean-Luc Moreau à mes côtés. Le 3216 bien sûr pour nous joindre, on va retrouver vos questions d'ailleurs dans un instant. Tout à l'heure, Céline Kastner sera là, Jean-Luc, pour notre rendez-vous affaires classées. On parlera du mauvais partage des responsabilités par l'assureur.
Ouais.
Comment réagir quand ça arrive?
Une dame qui s'est fait emporter un morceau de sa voiture par un bus et en fait... Céline nous racontera l'histoire, mais le constat démontrait qu'elle avait une part de responsabilité et l'expert a prouvé que ce n'était pas du tout le cas.
On retrouvera aussi tout à l'heure l'essai de la semaine, ce sera vraiment un véhicule sympa qui fait
oui,
penser aux
vacances.
Oui,
c'est parce qu'on en a parlé il y a 15 jours, alors c'est un petit clin d'œil parce qu'évidemment le tarif ne s'adresse pas à tout le monde, ouais. Même si c'est un combi, on peut se dire ouais youpi.
Tralala.
Ouais, mais bon.
Et puis il y a 20 000 euros de malus. Quoi.
Exactement, ça reste extrêmement cher. Tiens, d'ailleurs, on a Fabrice qui sur Direct Studio nous disait les ouvriers sont exclus de votre émission, surtout ceux chargés de famille, parce qu'on ne peut pas s'offrir les véhicules dont vous parlez. Mais Fabrice, on parle de la semaine dernière, je ne sais pas si vous avez écouté, on a parlé de la nouvelle Sandero qui démarre, qui est GPL et essence et qui démarre à moins de 10 000 euros. En matière de véhicules neufs, on ne peut pas faire un prix plus intéressant que ça. Après, vous allez me dire, oui, mais c'est quand même 10 000 euros. Mais on parle aussi beaucoup de véhicules d'occasion. Quand les gens nous appellent pour nous demander des conseils, j'essaye de les orienter vers les véhicules qui sont les plus fiables et qui correspondent le mieux à leur usage.
Je pense que les auditeurs qui nous sont fidèles savent très bien qu'on parle évidemment de tout type de véhicules, de tout type de combustion. Hein. Voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Allez, 8h09, on accueille Noël qui est avec nous.
Oui, bonjour.
Ah, vous êtes un peu en avance, Noël.
Pas de problème, c'est vrai que c'est souvent comme on l'a fait, celle-là.
Au mois de décembre, c'est passé à côté, ça aurait été une faute professionnelle.
Jean-Luc est le spécialiste des blagues qu'on a déjà eues, en fait. C'est
agréable, justement.
Oui, c'est agréable. qu'est-ce qui vous arrive, Noël? On vous écoute.
Alors moi j'étais intervenu la semaine passée là concernant le déclenchement des moteurs thermiques sur les hybrides rechargeables. Oui. Et en fait j'avais fait une remarque en disant que j'étais surpris que chez BMW il n'y a pas un système automatique comme j'ai sur ma Chevrolet Volt par exemple.
Ah oui, parce que la semaine dernière, attendez, pour resituer quand même un petit peu, on a un auditeur qui nous a appelé en disant depuis qu'on est dans cette crise sanitaire, moi j'ai un véhicule hybride rechargeable BMW et je roule sans arrêt à l'électrique, mon moteur essence ne tourne plus jamais, est-ce qu'il y a un risque à ce que le moteur essence tourne plus jamais? C'était ça en fait la question la semaine dernière. Donc, et vous nous dites, vous avez une Chevrolet Volt, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui.
Depuis combien de temps?
Alors, depuis 2017, c'est un modèle de fin 2012, là. Je l'ai acheté, elle avait 25 000, là j'ai 75 000.
D'accord.
76 000.
Et vous êtes content de la voiture?
Ah, je suis très content de la voiture. Je suis un peu moins content parce que Chevrolet n'existe plus en Europe.
Ah, et, malheureusement.
Opel ayant été racheté par PSA, la politique a complètement changé. Et donc, je voulais passer à l'Ampera suivante, mais bon, parce qu'en fait, il me manque quelques kilomètres. J'aurais d'ailleurs une question à vous poser pour le remplacement de ce véhicule, d'ailleurs.
D'accord. Moi, j'avais adoré cette voiture. C'est vrai que je me souviens l'avoir conduit sur des petites routes. C'était un pur bonheur de pouvoir rouler. Alors, moi, j'avais fait 60 kilomètres en électrique. Je sais pas combien vous faites aujourd'hui avec votre voiture.
Alors là, entre 3 degrés aux alentours de 5 degrés, là, je suis à 47, 48 kilomètres.
Ouais, moi, c'était l'été. Mais j'avais pris beaucoup de plaisir parce que cette voiture elle est confortable, elle est extrêmement silencieuse et puis elle marche quand même bien. C'est ça aussi, quand même, hein. 150 chevaux, ça déménage un peu. Et avec pas le risque de tomber en panne, puisqu'on a, on va l'appeler range extender, même si c'est pas simplement un range extender, puisque quand le moteur thermique se met en route, il peut aussi entraîner les roues. Par contre, là, la conso est plus élevée que ce qu'on sait faire aujourd'hui avec des hybrides rechargeables. C'est ça c'était un peu le défaut de la cuirasse.
Oui, alors justement, moi je vais régulièrement en Italie, là, on fait 1600 km aller et donc autant en retour. Sur autoroute, en mode maintien, je fais du Civic 6. Hein.
Ah oui? Ah oui, vous avez fait moins que ce que j'avais fait moi à l'époque. Je me souviens plus exactement du chiffre, mais je crois que j'étais plutôt aux alentours de 8 litres ou 9 litres.
Donc moi, je sais que je vais, quand pour faire l'entretien, là, je suis obligé d'aller à Lyon ou à Grenoble, et donc là, je fais l'autoroute, je fais du 6.
D'accord.
Après, sur la route, c'est plus compliqué, ça double. On arrive allègrement à 8, à 10 litres, parce qu'avec les montées et les descentes, là, en Ardèche, c'est un petit peu compliqué.
Ouais, bien sûr.
Mais voilà. Et donc, bon, donc voilà, donc j'étais un peu surpris que chez BMW, il n'y ait pas ce BMW, il n'y ait pas ce système, parce que moi, le moteur me demande de se déclencher quand j'ai pas assez roulé avec.
D'accord. Donc, oui, quand vous roulez que à l'électrique, en fait, la voiture vous dit attention, il faut rouler un petit peu en thermique pour éviter justement les problèmes d'essence qui vieillit dans le circuit et qui risque de mettre la voiture en panne. Et puis même la pompe à essence, faut qu'elle tourne un peu parce que si elle est immergée dans le carburant sans jamais tourner, on imagine qu'elle va s'oxyder et tout ça, c'est des vrais soucis.
Voilà. Et par contre, donc j'avais une question, un peu un challenge d'ailleurs, parce que je voudrais avoir à peu près le même confort d'utilisation, c'est-à-dire pouvoir faire autant de kilomètres que je veux en rechargeant, mais en ayant au minimum 100 kilomètres d'autonomie électrique. Et j'avoue que je trouve
100 kilomètres d'autonomie électrique, ça n'existe pas pour le moment. Il n'y a aucune voiture hybride rechargeable sur le marché qui propose 100 kilomètres d'autonomie. Non. Ça n'existe pas.
Maxi, c'est 50, c'est ça?
Non, c'est pas maxi, c'est pas 50. Il y en a certaines qui dépassent un peu 50 km. On va dire aujourd'hui, le maxi du maxi, c'est 60 km. Mmh. On est encore loin des 100 km. Il va falloir qu'il y ait une rupture techno sur les batteries qui arrive pour qu'on soit capable de proposer de l'hybride rechargeable avec 100 km d'autonomie. Et peut-être même plus d'ailleurs. D'ailleurs, ce qu'on va, moi, la façon dont je le vois, c'est que aujourd'hui, l'hybride rechargeable, on va dire, c'est un compromis. C'est un compromis qui est un petit peu électrique, essentiellement thermique. Et je pense que la proportion va s'inverser avec les progrès des batteries. C'est-à-dire que demain, on aura une voiture électrique avec un moteur thermique qui vous servira quand vraiment vous allez plus loin. Et à terme, je pense même que le moteur thermique disparaîtra quand on aura des capacités de recharge suffisantes, parce que le point, et je vais le répéter encore une fois, et vous verrez que dans 10 ans, on se dira « il avait encore raison », ce qui va merder, et je dis « merder », sciemment, c'est le réseau de recharge. On est complètement à la rue. La France, de ce côté-là, on a loupé le coche. Les politiques ont pris des décisions qui étaient ubuesques il y a 10 ans. Pour inverser la tendance, ça va être catastrophique. En plus, on va fermer des centrales nucléaires. Je trouve que c'est une connerie. C'est pareil, je dis connerie sciemment. Il faudrait aujourd'hui les maintenir en attendant qu'on ait une capacité de production électrique avec du renouvelable qui soit suffisante, mais pas les fermer avant.
Oui.
C'est complètement ridicule.
Bien sûr.
Voilà.
J'avais juste une remarque. Il y a éventuellement un modèle, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est la BMW i3 Range Extender.
Oui, alors non. Pourquoi je vous dis non? Parce que, pour le coup, le Range Extender, qui est un petit moteur de moto, en fait, c'est un moteur de scooter qui n'a pas un rendement très élevé. Là, vous consommez vraiment 9 litres au 100. Vous n'avez plus tout à fait les mêmes performances que la voiture électrique d'origine. C'est la fausse bonne idée, en fait. D'ailleurs, BMW a très vite arrêté le Range Extender. C'était plus pour rassurer les gens sur l'autonomie, de dire, voilà, on a une autonomie limitée, mais vous avez un petit moteur thermique. En fait, non. Non, ça remplacera pas votre voiture, c'est pas du tout la même philosophie.
Voilà Noël, merci en tout cas pour votre appel. 8h15, Jean-Luc, on retrouve comme régulièrement et avec beaucoup de plaisir maintenant Céline Kastner. Bonjour Céline.
Bonjour à vous deux et bonjour aux auditeurs.
Bonjour Dame Céline, qui est
directrice juridique et des politiques publiques de l'Automobile Club Association.
Qui a failli disparaître cette semaine puisqu'elle a été victime d'un tremblement de terre à Strasbourg, figurez-vous.
C'était un réveil sismique un petit peu violent.
Ah.
Et tout va bien.
Bon, tout va bien.
Elle a été secouée, mais moins que le dimanche matin quand on l'appelle.
Ouais,
parce qu'elle a déjà, elle est habituée au réveil sismique quand le dimanche matin. Hein, ça.
Oui, c'est ça. Vous m'avez habituée.
Bon, Céline, on est très heureux de vous retrouver et on va parler de cette affaire classée de mauvais partage des responsabilités par l'assureur. Comment réagir quand ça arrive?
Voilà. Alors donc là, c'est une adhérente qui est donc victime d'un accident. Vous allez nous expliquer les circonstances.
C'est ça. Alors, elle circule en voiture et puis elle arrive à une intersection. Elle veut tourner à droite. Et donc, elle commence à s'engager dans les régulars, en respectant précisément le code de la route et commence à tourner. Et c'est alors qu'elle est en train de s'engager qu'elle voit sur sa droite arriver au loin un bus. Alors, il est effectivement assez loin, mais il va à une allure qu'elle perçoit comme assez rapide. Et surtout, elle voit qu'il commence à se déporter vers le milieu de la route pour éviter des véhicules qui sont en stationnement le long du trottoir, à droite du bus. Donc, vu le gabarit et puis la configuration de la route qui est assez étroite, elle stoppe sa progression et s'arrête pour le laisser passer. Et c'est alors qu'elle est à l'arrêt que l'arrière du bus accroche l'avant gauche de son véhicule. Sauf que le bus, manifestement, ne sent pas le choc et poursuit son chemin. Donc, l'adhérente contacte la société de bus. Alors, il semblerait que le chauffeur, effectivement, soit pas de mauvaise foi et n'ait pas senti le choc. Et elle se rend sur place pour faire un constat. Alors, elle, pour anticiper, pour gagner un petit peu de temps, elle remplit toute sa partie, elle fait le croquis et le signe. Et le laisse à la société qui doit le faire remplir par le chauffeur, qui malheureusement est absent à ce moment-là. Et puis quelques jours se passent, et puis le chauffeur affirme finalement que c'est la conductrice qui est venue le percuter lui, et il annote tout ça sur le constat, qui, je le rappelle, est donc déjà signé par l'adhérente.
Ouais, alors résultat, on va peut-être faire une parenthèse tout de suite, Céline, pour dire que quand on fait un constat, on le fait les deux parties en présence, et on signe jamais un constat. C'est un peu comme si on signait un chèque en blanc, en fait, de signer
ça,
un constat.
Exactement, parce que toutes les mentions comptent, évidemment les vôtres de votre côté, mais aussi celles que va mettre le conducteur adverse. Donc, il ne faut signer un constat qu'une fois qu'il est complètement rempli. Et évidemment, si vous êtes d'accord avec toutes les mentions qui figurent sur le document, parce que précisément, c'est sur ce document que va trancher la compagnie, pour ce qui est des responsabilités. Et là, en l'occurrence, le résultat, comme on pouvait le craindre, la compagnie d'assurance, au vu des mentions sur le constat, retient l'entière responsabilité de l'adhérente. Elle considère qu'elle n'a pas respecté la priorité au bus qui venait de sa droite. Elle supporte en plus donc de ça une franchise de 450 € qui est prévue dans le contrat. Alors l'adhérente conteste évidemment cette position et elle saisit à ce moment-là notre service juridique qui va la conseiller et l'accompagner dans ses démarches. Alors elle porte ses fruits, cette contestation, puisque la compagnie revoit sa position et que sa responsabilité passe d'un 100% à un 0% et la franchise lui est remboursée. Et si ça a fonctionné, c'est parce que le dossier était solide et pour deux raisons principales, ou plutôt grâce à deux personnes clés de l'affaire, un témoin et l'expert automobile. Alors un témoin qui a assisté à toute la scène et qui heureusement s'est manifesté auprès de l'adhérente et a directement proposé de témoigner. Et puis dans son témoignage qu'elle a recueilli de manière écrite et légale, elle note deux éléments décisifs, à savoir que le conducteur s'est bien déporté de sa voix et que l'adhérente, à l'instant T du choc, était à l'arrêt. Et puis nous avons d'un autre côté l'expert automobile qui lui aussi a été complètement déterminant. C'est-à-dire que quand il est venu examiner le véhicule, sa mission première était d'évaluer les dommages pour effectivement évaluer
les montants des réparations,
etc. Mais il est allé plus loin, c'est-à-dire qu'il a pu nous éclairer sur les circonstances de l'accident. Et puis, je dirais qu'en tant qu'homme de l'art, il a fait parler les dommages, si on peut dire ça.
Oui, une rayure, on sait dans quel sens elle a été faite, quoi.
Exactement. Ça s'appelle l'inertie du choc. Et puis, il constate au niveau des dégâts qu'il n'y a pas d'enfoncement, mais qu'il s'agit d'un frottement. Donc, c'est pas une bosse, mais c'est un frottement. Et puis surtout, il examine les traces qui sont laissées par ce frottement et il peut dire que le choc s'est produit de la droite vers la gauche, c'est-à-dire exactement dans le sens de circulation du bus. Donc tout ceci vient appuyer finalement la position et la déclaration de notre adhérent et ça décrédibilise complètement la position du chauffeur. En fait, les dommages ont pu montrer matériellement que le véhicule de l'adhérente n'a pas pu aller percuter le bus, mais que c'est au contraire
le bus qui l'a percuté.
À son passage, est venu frôler et embarquer l'avant du véhicule.
Céline, ça veut dire que quand on a les conclusions de son assureur et le partage des responsabilités, on peut contester. C'est pas gravé dans le marbre quand il vous dit je vous mets 50% ou 100% de responsabilité. On peut arriver. Alors dans ce cas-là, évidemment, votre adhérente avait l'aide de l'Automobile Club Association, mais on peut quand même contester la décision de l'assureur.
Oui, vous avez tout à fait le droit de contester une responsabilité qui vous est opposée si vous n'êtes pas d'accord. Alors, bien sûr, pas contester pour le principe, mais à condition que vous ayez
d'avoir des preuves.
Des éléments concrets et probants. Il faut savoir que la compagnie d'assurance, évidemment, elle n'est pas là au moment du choc, elle n'est pas dans votre voiture, donc elle va trancher sur un constat amiable, qui peut être plus ou moins bien rempli, qui peut être plus ou moins bien annoté et qui lui permet plus ou moins bien de décrypter les circonstances de l'accident. Et donc précisément pour limiter les litiges et permettre à votre compagnie de trancher bien comme il faut dès le départ, c'est ce qu'on a dit, c'est de pas signer un constat si on n'est pas d'accord. Et puis c'est tenter aussi d'avoir des témoins, un ou des témoins qui pourront justement en cas de litige corroborer une version plutôt qu'une autre. Et puis dernier point, c'est compter sur l'expert qui peut, par un examen technique du dommage, vous aider aussi à savoir comment ça s'est passé. Alors, si l'expert ne dit rien lors de son premier rapport, vous avez aussi le droit de le contacter, d'échanger avec lui, de lui apporter des éléments supplémentaires sur les circonstances qui vont permettre d'orienter aussi son diagnostic et en tant qu'homme de l'art, d'aller voir un point précis, notamment là, la nature du dommage et comment ça a pu se produire.
Merci Céline.
Merci Céline.
Céline Kastner, donc, de l'Automobile Club Association. Jean-Luc, on revient dans un instant. Si je vous dis Ford Mustang 1966...
J'achète.
Eh bien voilà, bah écoutez, vous allez pouvoir négocier avec Arnaud, qu'on retrouve dans un instant, qui a une question sur ce sujet. 32-16, l'appli RMC Direct Studio. On revient juste après la météo.
RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
Nous voilà de retour 8h30 au Week-end des Experts, l'automobile, jusqu'à 10h avec Jean-Luc. Et à 10h, vous retrouverez les paris RMC. Dans quelques instants, ce sera l'essai de la semaine. Un essai fun, Jean-Luc, on peut le dire,
ouais,
parce que ce sera la Volkswagen California Ocean. Le combi moderne de Volkswagen.
Exactement, un capital sympathique et vraiment unique. Hein, parce que c'est, souvenez-vous, vous étiez jeune, cheveux au vent.
C'est le combi de Scooby-Doo.
On va dire ça comme ça. C'est le combi de Scooby-Doo, mais c'est vrai en plus parce que que j'avais, il était bicolore et la voiture de Scooby-Doo, elle est bicolore aussi.
C'est vrai,
voilà,
c'est
donc
ça.
Je me suis pris un peu pour Scooby-Doo.
Bon, c'est un peu c'était plus... quoi aussi ? Il y avait autobus impérial, mais c'était un autobus. Vous vous rappelez ?
Un autobus, en Angleterre.
Voilà, c'était rigolo aussi.
Oui, mais ça avait rien à voir.
Ça avait rien à voir.
Non, il y avait aussi les bisounours aussi. Mais ça n'avait rien à voir.
Les bisounours, c'est des bisounours sans vanne. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce truc-là. Donc là, ça sera l'essai de la semaine. Et d'ici là, on poursuit avec vos questions au 32-16. Et c'est Arnaud qui est là. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Bonjour Arnaud.
Bonjour messieurs, ça va ?
Ça va Arnaud ?
Bien.
Je m'excuse, mais je suis un peu malade là, j'ai mal à la gorge.
Ah, aïe, aïe, aïe.
Bon, l'avantage, c'est qu'à la radio, on ne peut pas attraper le Covid.
Non, on peut rien attraper.
Vous pouvez y aller. Voilà. Vous pouvez même tousser dans le poste.
D'accord, ok.
Qu'est-ce qui se passe Arnaud ?
Voilà, j'ai un ami qui m'a dit que j'ai une voiture de collection et actuellement, elle n'est pas encore immatriculée. Je dois l'immatriculer.
Ouais.
Donc, je dois la passer aux mines à vendre, enfin bref. Et donc, on m'a dit qu'il y avait un malus sur l'immatriculation de la voiture.
C'est votre ami, il veut vous racheter la voiture pour pas cher, c'est ça ?
Alors, vous savez
quoi ? C'est quoi votre voiture ?
C'est une Mustang.
D'accord, une Mustang avec un V8, à quoi ?
Un V8,
Un 2,89 ?
2,89, voilà.
D'accord. Bon, écoutez, je vous la rachète 5000 euros et puis le problème est réglé et voilà.
Et on n'en parle plus.
Non,
il n'y a pas, de malus, d'autant plus. Alors, vous savez, il y avait le fameux. Alors, on lui a donné divers noms. On l'a donné taxe sur les véhicules puissants, taxe sur les véhicules de luxe. Au-delà de 36 chevaux fiscaux, vous aviez une taxe. Alors, c'était monstrueux parce que c'était 500 euros par cheval avec une limite à 8000 euros. Alors, on pouvait se dire, ouais, mais au départ, d'ailleurs, c'est ce qu'ont dit les propriétaires de véhicules de collection. Ils ont dit, mais attendez, il y a des voitures américaines qui sont à. Alors, moi, j'en ai une. Qui est à 48 chevaux fiscaux, mais qui est moins puissante que des voitures actuelles qui n'ont pas de malus. Donc c'était ridicule. Alors en fait, ça ne s'appliquait pas aux véhicules de collection, ça c'est le premier truc. Donc vous n'avez pas, vous n'aurez pas à payer cette taxe-là. Et en plus, cette taxe-là, il est prévu, alors la loi de finances n'est pas encore votée, mais il est prévu qu'elle soit supprimée en 2021. Donc dans tous les cas, je ne pense pas que votre voiture, là, avec la fin de l'année qui arrive, soit immatriculée avant 2021. Donc
vous ne
paierez pas cette taxe, rassurez-vous. Par contre, vous allez payer la carte grise, je ne sais pas à combien la Mustang est considérée en chevaux fiscaux, ça dépend si elle a une boîte auto, une boîte méca.
C'est une boîte auto. Je crois que ça doit être dans les 50 chevaux, quelque chose comme ça,
voilà.
Fiscaux. Donc.
Bon, 50 chevaux fiscaux, là où ça va faire mal, même si vous payez la carte grise moitié prix, c'est la carte grise qui va vous coûter cher. Mais ça, de toute façon, il n'y a rien à faire. 50 chevaux fiscaux, vous comptez, c'est en moyenne 50 euros par cheval fiscal. Bon, tout dépend de la région où vous êtes, bien évidemment. Mais là, le truc, ça pique un peu les yeux, quoi, quand on paye la carte grise. Mais c'est le seul truc, hein. Vous n'avez pas de malus autre que le prix de la carte grise, si j'ose dire.
Ah d'accord, parce que moi il m'a fait peur, parce qu'il dit que j'aurais une trentaine de mille d'euros à payer.
Oui, bah voyons, votre pote, il voulait vous racheter la voiture à bas prix, c'est ça là.
Ouais, ça veut dire. C'est pas un vrai pote.
Tu vas payer 30 000, donc je te la rachète 15 000, comme ça.
Voilà, comme ça c'est fait.
De toute façon, il n'est pas question que je la vende, mais voilà.
C'est un coupé, un cabriolet, un fastback, c'est quoi ?
C'est un coupé cabriolet.
Alors,
c'est un cabriolet.
C'est un cabriolet, oui.
Oui, c'est. Voilà.
Quelle couleur ? Je vous pose des questions.
Elle est bordeaux.
D'accord. Intérieur ?
Intérieur noir.
D'accord. Vous l'avez ramené des États-Unis, c'est pour ça qu'elle n'est pas immatriculée, non ?
Non, je ne l'ai pas ramené. En fait, je l'ai eu par un ami qui s'en est débarrassé. Et donc,
c'est une Française d'origine ?
Non, elle n'est pas française, elle est immatriculée aux États-Unis.
D'accord.
Et donc, il faut que je.
Ça coûte combien, ça, Jean-Luc ?
Ben ça dépend. Alors là, pour le coup, ça dépend.
Ça dépend
parce qu'aujourd'hui, c'est très dur de trouver une Mustang qui est dans son état d'origine. Parce que la Mustang, en fait, était proposée à un prix super attractif quand elle était vendue. Et il fallait rajouter 1 milliard d'options. Donc chaque voiture était pratiquement différente.
D'accord.
Et par la suite, ceux qui n'avaient pas les options de début, par exemple les freins à disque, des choses comme ça, les ont rajoutées. Donc ce qui fait qu'on a peu de voitures qui sont totalement d'origine, à part celles qui étaient livrées dès le départ avec toutes les options, celles-là valent très cher. Et à l'inverse, celles qui ont été modifiées, il y avait aussi des 6 cylindres qui étaient commercialisées, il y en a beaucoup qui les ont remplacées pour mettre des V8, donc évidemment ces voitures-là valent moins cher. Mais on va dire qu'une Mustang, ça vaut entre... Elle est de 66 la vôtre, c'est ça ?
Oui, 66, oui.
Voilà. Bon, on va laisser de côté les modèles avec des motorisations très particulières, mais ça vaut entre 20 000 et 50 000 euros, Mustang cabriolet de ces années-là.
Ouais, c'est ça. Ouais, moi, je l'avais fait estimer à 40, quand elle sera immatriculée, 40-45
000. Ouais, pas mal.
Tout dépend de l'État. Après, c'est l'État. Hein. Sur les véhicules anciens, c'est l'État qui définit le prix. Hein. C'est pas juste la caractéristique, l'année et le kilométrage de l'auto, comme avec un véhicule d'occasion classique.
Arnaud, merci pour votre appel. Il est 8h35, l'essai de la semaine dans un instant, mais auparavant, c'est Michel qu'on attend et qu'on accueille au 32-16. Bonjour Michel.
Bonjour François, bonjour Jean-Luc.
Bonjour Michel.
Bonjour, bienvenue. Bon,
merci beaucoup. Voilà, moi je voulais poser une question sur l'hydrogène, car on n'en parle plus depuis quelques temps. Je voulais savoir si ça intéresse toujours les constructeurs, parce que je sais qu'il y a Toyota qui c'est le seul qui a lancé ce modèle-là, c'est Mirai, je crois.
Oui, alors vous êtes en plein dans l'actualité parce qu'en fait la Mirai de deuxième génération vient d'être présentée. Enfin, elle a été présentée, moi je l'ai vue au salon de Tokyo il y a un an et demi maintenant. Ouais. Alors elle est complètement différente de la première Mirai qui était, on va le dire, extrêmement laide. Maintenant la nouvelle est plutôt très belle. Donc déjà ils ont fait un gros progrès. Avant, fallait vraiment, c'était un véhicule qui s'adressait aux malvoyants. Hein. Maintenant c'est bon, on peut arriver à monter.
On peut ouvrir les yeux. Voilà. Pour la regarder.
Bon, cette voiture, elle progresse évidemment un peu de tous les côtés. Elle a une pile à combustible qui est plus efficiente. Elle a une puissance qui augmente également, 174 chevaux. Moi, j'avais fait beaucoup de kilomètres avec la précédente Mirai, qui est vraiment une voiture très agréable à utiliser. L'autonomie, maintenant, est en progression aussi. Ils annoncent 650 kilomètres en attendant les données d'homologation définitive, parce que c'est pas encore fait. Et surtout, ils nous annoncent un tarif de 15% inférieur à la génération précédente, mais malgré ça, ça pique un peu les yeux. Vous allez comprendre mon raisonnement derrière. C'est que là, même avec un prix de 15% inférieur à la génération précédente, ça va démarrer à 63 000 euros. On ne peut pas dire vraiment que ça va démocratiser l'hydrogène. Alors, malgré ça, Toyota nous dit on va en vendre 10 fois plus que la
droit à des aides ou pas, là ?
Oui, vous avez droit à des aides, mais vous allez voir. Alors, on va en vendre 10 fois plus que la précédente Mirai. Vous savez combien s'est vendu en 2019 ? Combien d'exemplaires ont été vendus en 2019 de la Mirai ?
En France ou dans le monde ?
Dans le monde.
1000 ?
2407 exemplaires. Franchement, même s'ils en vendent 10 fois plus,
ça fait pas beaucoup.
C'est une goutte d'eau dans la mer. Oui. Donc, de dire l'hydrogène, c'est l'avenir de l'automobile, Bon, je vais le dire comme je pense, c'est une connerie. C'est un mensonge au mieux, parce que l'hydrogène peut être utile pour des véhicules captifs, pour des flottes. Pourquoi ? Parce que le souci, c'est pas la voiture. La Miraille, elle est très bien. C'est le carburant. L'hydrogène n'existe pas à l'état naturel, il faut le fabriquer. Aujourd'hui, on le fabrique à partir de gaz naturel, demain, on le fabriquera à partir de renouvelables, et même en le fabriquant à partir de renouvelables, aujourd'hui, ça coûte entre 12 et 15 euros le kilogramme en France, soit 1 kilo d'hydrogène pour faire 100 km, ça coûte plus cher que de rouler avec un véhicule essence ou un véhicule diesel. Donc, où est l'intérêt ? L'intérêt économique, il n'y en a pas. La voiture, elle est beaucoup plus chère à l'achat. Elle est beaucoup plus chère pour rouler. On perd deux tiers de l'énergie de départ si on fait de l'hydrogène à partir de l'électricité. Deux tiers de l'énergie de départ est perdue dans la transformation en hydrogène, puis dans la transformation de l'hydrogène en électricité. Donc c'est une hérésie totale. Vaut mieux charger une batterie. Et puis après, on oublie un petit peu qu'une pile à combustible, dedans il y a du platine, il y a des choses qui coûtent cher. Alors quand on nous dit ah là là, il y a un problème avec les métaux rares qui sont dans les batteries, bah il y a les mêmes problèmes avec les métaux rares qui sont dans les piles à combustible. Et en plus, une pile à combustible a une durée de vie limitée, on estime environ à 150 000 km. Et comme c'est l'élément le plus cher de la voiture, si vous êtes obligé de le changer à 150 000 km, il y a un vrai souci. Donc, hydrogène pour monsieur tout le monde. On avait d'ailleurs le directeur du programme hydrogène d'Air Liquide, qui est quand même le leader mondial de l'hydrogène dans cette émission, qui a reconnu que pour la voiture de monsieur tout le monde, c'était pas une bonne idée. En revanche, peut-être pour les poids lourds, peut-être pour des flottes captives, peut-être pour des taxis, ça peut être une bonne idée.
Ça peut avoir du sens.
Mais pour votre voiture demain, c'est pas une bonne idée. D'ailleurs, Mercedes a arrêté le programme. Audi, le patron d'Audi vient de changer et le nouveau a dit on arrête le programme hydrogène. Alors les Japonais continuent. Moi, j'avais eu une longue discussion avec le directeur du programme hydrogène de chez Toyota à l'époque et je lui ai posé la question. J'ai dit mais écoutez, est-ce que le programme hydrogène a encore du sens à partir du moment où les batteries feront des gros progrès? À l'époque, on commençait à parler du graphène. J'ai parlé du graphène avec lui. Il m'a dit, le jour où les batteries graphène sortiront, on arrêtera le programme hydrogène.
Voilà, donc
bon, bah, ça y est, les batteries graphène, je suis désolé, elles arrivent. Donc, est-ce que l'hydrogène, demain, permettra aux voitures électriques de rouler? La réponse, c'est non.
Non, mais alors, par exemple, comme vous disiez, pour peut-être des transports.
Oui, à partir
plus
du moment pour avoir
etc.
une pompe, parce que ce qui pose problème,
lourd,
c'est la fabrication du carburant, de l'hydrogène et la distribution. Mmh. C'est surtout la distribution aussi qui coûte
bien
cher.
Sûr. Tiens, puisqu'on parle de transport démesuré, vous savez que ce matin, le porte-container Champs-Élysées est parti de Dunkerque à 6h du matin, donc il y a 2h40. Il a une particularité, c'est que c'est l'un des tout premiers porte-containers qui carbure au gaz naturel.
Oui, mais ça c'est très bien, parce qu'on parle beaucoup de l'automobile, à chaque fois on tire à boulet rouge sur l'automobile, mais on oublie que les bateaux aujourd'hui,
le transport
c'est
maritime,
30%,
c'est une catastrophe.
Voilà, 30%
c'est une catastrophe.
De la pollution des transports
à
dans
la
le
fois
monde.
Ces porte-conteneurs, mais aussi les grands les bateaux de croisière,
et quand vous commandez sur Amazon à votre nouvelle console de jeu, le bilan carbone de la console de jeu qui est fabriquée à l'autre bout du monde, qui est transportée dans un porte-conteneur et qui ensuite va être transportée en camion, puis va être transportée avec un utilitaire jusque chez vous. Si vous faites le bilan global du truc, c'est pas si écologique que ça, quoi,
ouais, c'est
d'acheter
sûr.
En ligne.
Enfin voilà, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Même le transport maritime s'y met. Et en plus, c'est une boîte française, puisqu'il s'agit de CMA-CGM, qui est le grand transporteur mondial, mais qui est originaire
mais
de
demain,
Marseille.
Il faudra trouver pour les bateaux, effectivement, des énergies alternatives. Vous avez vu, il y a des bateaux à voile qui commencent à revenir. Enfin, des voiles évidemment beaucoup plus modernes.
Il y a un article dans Les Échos que je vous invite à lire là-dessus qui est passionnant, parce que le gaz naturel liquide dans un porte-container comme ça, 20 000 containers, c'est un truc, c'est une ville, quoi, en fait, ce bateau-là. Allez, 8h42, Jean-Luc. Alors, c'est un petit peu plus petit quand même. Ce qui va nous arriver là, c'est le Volkswagen, le combi Volkswagen California Ocean.
Ouais.
On en parle dans un instant, ça sera l'essai de la semaine, à tout de suite.
RMC jusqu'à 10h,
votre auto.
François Sorel,
Jean-Luc Moreau.
Voilà, 8h47, avant de retrouver l'essai de la semaine, Jean-Luc, une petite précision concernant notre auditeur tout à l'heure qui parlait de sa Mustang.
Sur la Mustang, on a François qui nous dit sur Direct Studio, l'auditeur de la Mustang a bien dit que le véhicule n'était pas encore immatriculé en France, donc le malus s'applique. Non, parce que la voiture a plus de 30 ans et s'il la met en carte grise de collection, il a tout intérêt à le faire, il n'aura pas de malus. Donc voilà.
D'accord, donc c'est important de le signaler. Tiens, puisqu'on parle de malus, là, préparez le chèque, puisque l'essai de la semaine... c'est le Volkswagen California Ocean.
Alors celui-là, il prend tout de suite 20 000 euros de malus dans le museau. Voilà, c'est dit.
Bon, c'est une petite, en fait, c'est un petit combi mythique, hein, qui a bercé, les années 60-70, qui revient au goût du jour, donc.
Ouais, c'est sans doute le véhicule qui possède le capital sympathie le plus fort. Vous savez, le combi Volkswagen des années 60 avec le mouvement hippie, vous aviez les cheveux longs à l'époque, ouais, François.
Je m'en souviens très bien.
Voilà, bon. Bon, alors, il a quand même évolué, hein, depuis, surtout avec le passage du moteur à l'avant, puisque il avait le moteur à l'arrière, ce combi Volkswagen, qui était hérité de la coccinelle. Le moteur est passé à l'avant en 1990 sur la génération qu'on appelle T4, rien à voir avec Terminator, hein. Aujourd'hui, la nouvelle génération qui s'appelle T6 6.1, voilà, parce que voilà, a été lancé en 2015, hein, le T6 a été lancé en 2015, c'est une version 6.1 donc qui a été revue. Alors, par rapport au combi d'origine, c'est vrai que tout a changé. D'abord, les mensurations. C'est quand même un joli bébé, hein, 5 mètres de long, 1,90 m de large. C'est plutôt gros pour une voiture, mais c'est compact pour un camping-car. En plus, la hauteur est inférieure à 2 mètres, 1,99 m, donc ça vous permet de rentrer dans à peu près tous les parkings, alors qu'avec un camping-car, il faut prendre beaucoup d'élan pour rentrer dans les parkings.
Oui, et puis en général, on perd le toit.
Oui, c'est ça le problème. Bon, dedans, c'est aussi un mélange des deux. C'est un mélange de voiture et de camping-car. Alors, à l'avant, c'est une Golf. Vous avez un grand écran tactile de 9,2 pouces, un compteur digital, c'est le fameux digital cockpit qu'on a sur la Golf. Vous avez les mêmes aides à la conduite, le maintien dans la voie, le park assist, la stabilisation lors de vent latéral. Ça, c'est pas de la Golf, mais au moins c'est utile sur un véhicule qui est quand même qui a une prise au vent un peu plus importante. Et puis, alors bon, ce qui est pas Golf, c'est la position de conduite qui vous rappelle un peu les utilitaires. Vous savez, on est assis un peu haut avec le volant un peu à l'horizontale, comme quand vous faites semblant de conduire. François, vous avez souvent le volant qui est comme ça. Il faudrait la vidéo pour qu'on voit.
Pour voir, oui, bien sûr. Ouais.
Bon, cela dit, la conduite s'apparente presque à celle d'une voiture, hein. Notre modèle d'essai, il était équipé du moteur diesel 2 litres TDI 198 chevaux, 450 Nm de couple, la boîte DSG7, donc boîte automatique, on s'occupe de rien. Et avec ce moteur-là, on ne sent pas du tout le poids du bazar, parce que ça fait quand même 2,6 tonnes. Hein,
le poids du bazar.
Ça fait 2,6 tonnes. Non, les accélérations sont franches, c'est rassurant, on peut doubler. En plus, cette version-là était équipée de 4 roues motrices, donc même s'il y avait eu de la neige, j'aurais pas été bloqué par la neige. Suspension active. Donc on peut régler suivant divers modes. Alors le mieux, c'est de le mettre en confort. C'est vrai que ça fait un peu chameau sur les bosses, c'est-à-dire que on pourrait attraper le mal de mer, mais c'est extrêmement confortable. Alors vous pouvez après mettre en mode normal, qui est un tout petit peu plus ferme. Et si vous êtes en montagne, vous mettez en mode sport et ça évite de prendre trop de roulis dans les virages. Donc franchement, à conduire, c'est comme une voiture. On n'a pas du tout l'impression de conduire un utilitaire. Alors, tout l'intérêt, évidemment, vous allez me dire, là, vous avez conduit, mais tout l'intérêt, c'est de s'arrêter presque avec cet engin-là. Bah oui, parce que un California, ça se juge dans l'aménagement à l'arrière. Alors, on peut dormir dedans et on peut dormir nombreux, mon bon monsieur. Alors, toujours moins de 6 personnes, évidemment, à cause du Covid, évidemment. Mais vous avez 2 lits de 2 personnes, ce qui ne vous empêche pas d'être 3 dans chaque lit.
Ça fait beaucoup.
Ils sont suffisamment grands. Hein. Donc, le premier lit, vous avez la banquette arrière qui coulisse, qui se rabat. Vous avez un petit surmatelas qui se déplie dessus. Ça vous fait un lit confortable. Et, grâce au toit relevable...
Est-ce qu'on peut conduire depuis le lit?
Non, il vous faut des très grands bras. Voilà. Si vous êtes un grand singe, peut-être que vous pouvez.
On peut y arriver. D'accord.
Non, vous avez un toit relevable et grâce à ce toit relevable, vous avez un autre espace de couchage qui se trouve sur la partie supérieure. Donc vous relevez le toit, hop, et là vous avez un. Mais pour le coup, le lit est encore plus grand à l'étage qu'en bas. Bon, il faut quand même être capable de grimper en haut. Si vous voulez faire
de l'ombre. Faut le mériter.
Votre grand-mère à l'étage supérieur, il n'y a pas d'escalier pour monter. Bon. Il faut quand même être un tout petit peu souple. En revanche, vous pouvez faire la nuit complète dans la voiture parce que vous avez des stores qui sont intégrés. Alors ça, c'est très rigolo parce qu'on le voit dans certaines berlines de luxe. Mmh. Des fois, vous avez un petit store à l'arrière que vous pouvez monter pour occulter ou diminuer la luminosité dans la voiture. Là, vous avez des stores sur toutes les vitres qui permettent d'occulter complètement le pare-brise, les vitres latérales, la vitre arrière. Donc on peut faire la nuit dans la voiture. Vous avez même un chauffage stationnaire. C'est ce qu'on appelle un V-Basto. Donc c'est un chauffage qui marche au gasoil. Vous n'avez pas, l'échappement n'est pas à l'intérieur, hein, mais ça vous permet, quand la voiture est arrêtée,
d'avoir du chauffage.
Vraiment du chauffage. Alors, vous avez à l'intérieur aussi une table qui se déplie. Alors, d'accord. Ce que je trouve génial dans cette voiture,
tout doit être ingénieusement installé.
Exactement.
Quoi.
Les ingénieurs qui ont pensé ça, ils ont dû se marrer parce que franchement, c'est un Lego, quoi. Tout rentre dans.
Il doit falloir le mode d'emploi, non, je pense.
Ouais. Mais rien que la démonstration, on a pris une heure pour la démonstration de comment tout marchait. Alors, vous pouvez déplier la table et quand personne ne dort au-dessus, vous remontez le plancher est sur des vérins. Donc, le plancher du toit peut remonter quand le toit est ouvert et vous pouvez tenir debout. Autour de la table, par exemple, vous allez dire, ça sert à quoi? Alors, vous avez une partie cuisine qui se situe sur le côté droit avec un évier, deux feux de cuisson au gaz, même un réfrigérateur avec ouverture par le haut. Vous avez même à l'arrière une petite douche. Et oui, alors c'est de l'eau froide. Donc ça va pour les surfeurs qui sortent de l'eau, qui veulent juste se dessaler. On pourra toujours mettre un système, vous savez, il y a des systèmes de chauffe-eau solaire. Donc on pourra toujours mettre un système de chauffe-eau solaire. Ce qui est vraiment très étonnant, c'est qu'on peut en plus, alors à l'extérieur, on a un store qui se déplie, on a des chaises qu'on peut mettre, une table pliante aussi qui est dans la porte latérale coulissante qu'on peut déplier, on peut se faire vraiment s'installer comme avec un mini camping-car. Sauf que là, vous ne payerez pas le prix du camping-car quand vous serez au péage. Et puis surtout, vous pourrez vous déplacer beaucoup plus rapidement. Puis ça se conduit, je vous dis, comme une voiture. Alors, le point
noir.
Tout ça, c'est sympa.
Mais oui. ça coûte combien?
Donc, ce soin apporté au California fait que le prix pique un peu les yeux. 80 840 euros pour cette version haut de gamme. Ça démarre à 50 000. Ouais. Là, la version Ocean, c'est la plus chère. Mm-hmm. Et vous avez 20 000 euros de malus, parce que 239 grammes par kilomètre de CO2. Il y avait en plus 8 799 euros d'options sur mon modèle, ce qui le met à 109 639 euros. Alors là, pour le coup, bon, c'est moins cher qu'un camping-car, hein, mais ça fait chaud quand même pour un van. Hein.
Ouais. C'est pas une bonne vanne, si je puis me permettre.
Oui.
Bon, allez, 9h-5, on revient dans un instant, Jean-Luc, on attaque notre troisième partie de ce week-end des experts auto. Avec vos questions, entre autres, au 32-16 qu'on attend avec impatience, n'hésitez pas, ou via l'appli RMC Direct Studio. À tout de suite.
RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.